Pourquoi suis-je ici? D'abord pour le plaisir. J'aime bien Poitiers, j'ai découvert cette ville il y a une dizaine d'années où j'étais venu parler du même sujet, mais c'était avant la publication de mon livre. Et là, je suis riche d'une publication. Oh, j'ai besoin d'un micro.
Oh, moi, c'est comme c'est une proposition d'art.
Franchement, si vous n'écoutez pas, vous me tendez l'oreille et je monterai le volume. Donc, je vais me présenter à mon tour. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Je suis un historien, pas du tout un scientifique, pas du tout un mathématicien. Je suis un littéraire qui s'est toujours intéressé aux sciences et aux machines. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire l'histoire de l'informatique en France. C'est aussi pour une autre raison, c'est que depuis au début des années 80, j'ai été recruté par le CNRS. Et je me suis demandé ce que c'était que ce grand organisme de recherche publique bourré de fonctionnaires. Je voyais bien ce qui y entrait. À l'époque, c'était 10 milliards de francs par an, mais je ne comprenais pas très bien ce qui en sortait. Et comme j'étais au siège central, où j'avais accès à tout le monde, à tous les directeurs et à toutes les archives, j'ai voulu répondre à cette question de citoyen. On connaît l'input, qu'est-ce qui sort? Et plutôt que de faire une réponse générale de sociologue ou d'économiste, j'ai agi en historien, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire une étude ponctuelle, locale, d'un point de vue très particulier, mais en choisissant soigneusement le problème que j'attaquais, qui était quelle a été la capacité d'innovation du CNRS depuis sa création en 1939. Le CNRS, je pense que vous savez ce que c'est, Centre National de la Recherche Scientifique. C'est un organisme qui couvre toutes les disciplines, des maths jusqu'à la philosophie, en passant par les grands départements, c'était maths, physique, chimie, sciences de la Terre, océan, atmosphère, espace, biologie, sciences sociales, sciences humaines. Il n'y a pas informatique là-dedans jusqu'aux années 70-80. Et donc je me suis demandé comment l'informatique était apparue là-dedans, sachant que l'informatique est un phénomène, une discipline, une activité, une industrie gigantesque dans le monde contemporain qui n'existait pas à l'époque où le CNRS a été créé. Donc, la question paraissait presque évidente dans sa crudité. Comment le CNRS a identifié et perçu une innovation qui apparaissait pratiquement en même temps que lui, donc dans les années 40-50. Ça c'est le plan de mon livre. Mais tout de suite, ça c'est le premier ordinateur opérationnel, 1949, Cambridge, Université de Cambridge en Grande-Bretagne, pas aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Et vous voyez, ça donne une idée de ce que c'était construire un ordinateur à l'époque des pionniers. Pour un laboratoire de mathématiques, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, tout à fait considérable. Pour un laboratoire d'électronique, c'est quelque chose de normal. Assembler des tubes, des résistances, des condensateurs, des tas de fils avec des soudures qui se dessoudent très vite. Et essayer de faire marcher cet assemblage improbable en lui faisant ingurgiter des codes machines, c'est-à-dire des suites de 0 et de 1, parce qu'on ne savait pas du tout, il n'y avait pas encore les langages de programmation à l'époque. Donc c'était un investissement moyen, beaucoup moins qu'un accélérateur de particules ou qu'un cyclotron de l'époque. Mais bon, c'était une entreprise, une petite entreprise à l'échelle d'un laboratoire universitaire de l'époque. Et c'était abordable. Et pourquoi les Anglais ont réussi avant les Américains? Justement parce qu'ils avaient moins de crédit et donc ils ont été obligés de faire une machine relativement modeste qui n'allait pas vite, 200 kHz. Le premier ordinateur de l'histoire qui a marché, c'était 200 kHz. Rapidement, à l'époque, ça aurait été 1 MHz. Aujourd'hui, ça fonctionne à quelle vitesse ces machines? 2 GHz, quelque chose comme ça, ou 20 GHz? Ah bon. C'est pas la peine d'insister sur le fait que ces machines ont beaucoup progressé. Mais un point important quand on regarde cette image, cette photo est prise dans un labo de mathématiques de Cambridge. Et jusque-là, et encore à cette époque, les mathématiciens avaient coutume de dire que les mathématiciens n'ont besoin pour travailler d'aucun moyen matériel, de papier et de crayon, encore peuvent-ils s'en passer à l'occasion. Ça a été dit, redit, écrit par des grands mathématiciens dans le monde entier, à l'époque où on construisait ces machines. Donc, ma question, comment les organismes de recherche, et au-delà les universités françaises, les mathématiciens et les autres, ont accueilli cette innovation. Alors, sachant, donc là je vous présente quelques précautions de méthode d'un historien, sachant qu'il ne faut pas regarder le passé à travers les a priori et les évidences d'aujourd'hui, il y a un exercice intellectuel qui est nécessaire à tout historien, c'est d'essayer de se replacer dans l'époque où, en 1949, on ne savait pas que les ordinateurs allaient d'abord, on ne savait pas qu'ils allaient s'appeler des ordinateurs, le mot date que de 1955, on ne savait pas que ça allait s'appeler l'informatique, le mot informatique date de 1962, et s'il date de 1962 seulement, c'est qu'avant on n'avait pas besoin de nommer une activité, on ne savait pas que ça deviendrait une énorme industrie, c'était une petite industrie à l'époque, il y avait une industrie des machines à calculer mécaniques, machines à manivelle, genre caisse enregistreuse et autres. Il y avait une industrie des machines mécanographiques à carte perforée pour la comptabilité, les statistiques, mais c'était un tout petit sous-ensemble de l'industrie mécanique. C'était rien à côté de l'industrie automobile, c'était rien à côté de l'industrie des machines-outils. Aujourd'hui, l'industrie informatique a dépassé l'industrie automobile en revenus sur le plan mondial. Et à cette époque, on ne savait pas non plus que ce serait une science. On savait que quelques personnes dans le monde, quelques équipes arrivaient à faire des machines qui faisaient des calculs plus rapides. On pensait qu'on en aurait un peu besoin pour la physique nucléaire, peut-être pour faire des calculs pour la météo. Bref, en 1949, de bons esprits, pas des idiots, des bons esprits, estimaient qu'on aurait besoin d'une dizaine de machines comme ça dans le monde. Je remonte en arrière. Je présente rapidement mon livre, qui est centré sur la France, mais dans une perspective comparatiste. J'ai voulu comparer ce qui se faisait en France avec ce qui se faisait, non pas aux États-Unis, qui était déjà à l'époque une superpuissance, donc la comparaison n'est pas équitable, mais avec des pays de taille moyenne, qui eux aussi avaient souffert de la guerre, comme l'Angleterre, l'Allemagne ou le Japon. Et là, la comparaison est éclairante. Premier constat, je vous résume mon livre en quelques mots. Premier constat, la France est le seul pays industrialisé où la recherche publique n'a pas réussi à construire un ordinateur. C'est le seul. C'est dans tous les pays industrialisés, des gens comme ceux que je viens de montrer se sont mis à 5 ou 6 ou 10, ont réussi à obtenir quelques crédits et à monter un ordinateur brinque-ballant dans les murs du laboratoire, puis à en tirer les leçons pour en faire un qui marchait mieux. Et en général, la moitié de l'équipe est partie ensuite dans une entreprise pour développer une série commerciale. Et c'est comme ça que sont nés les premiers ordinateurs IBM, Univac, Ferranti en Grande-Bretagne, Siemens en Allemagne, Philips en Hollande, etc. Et au Japon, pareil. En France, la recherche publique a complètement raté dans ce petit domaine. C'était à l'époque, les technologies nobles dont on savait que c'était les technologies d'avenir, où tout ingénieur avait envie d'aller travailler, où tout scientifique avait envie de participer et où tout politicien voulait investir parce que c'était l'avenir, parce que c'était les industries stratégiques, parce que c'était des technologies nobles, c'était le nucléaire, après la bombe d'Hiroshima et avec les promesses d'énergie nucléaire civile. C'était l'aéronautique et l'aérospatiale, parce que c'est les avions qui avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale et que l'aviation était en plein développement et qu'on savait que le stade d'après serait les fusées. Tout le monde savait en 1950 qu'à partir de 1970, il n'y aurait plus aucun avion de chasse ni aucun bombardier. Tout ça serait remplacé par des missiles guidés. C'est évident qu'en l'an 2000, il n'y aurait plus d'avions pilotés. Ce seraient des missiles. Voilà. Je vous dis ça pour vous replacer dans ce qui pouvait être évident à l'époque et qui n'est pas aujourd'hui. Et ce qui était bien aussi, c'était le radar. Parce que le radar avait gagné la bataille d'Angleterre. Voilà. Le calcul, c'était... On savait que ça existait, mais c'était une activité un peu subalterne. Si vous voulez, dans la représentation des gens... Le calcul, ça s'identifiait essentiellement à la mécanographie à carte perforée, c'est-à-dire à des employés en blouse grise qui faisaient marcher des machines bruyantes dans lesquelles il fallait verser de l'huile. Si vous voulez avoir une idée de ce qu'était donc ce qu'on appelait le calcul ou la mécanographie dans les années 50, vous allez à l'atelier de reprographie du coin de la rue ou de l'université. C'était ça. Donc pas du tout une technologie noble. On n'aurait pas imaginé qu'un polytechnicien aille travailler dans ce secteur. Et quand des polytechniciens le faisaient, on leur disait « Essayez de vous mettre à quelque chose d'un peu plus sérieux. » Donc, toutes ces raisons font que là, en France, ce n'était pas très considéré. Une raison supplémentaire, c'est que les mathématiciens purs dominaient l'université et le monde académique français. Donc, tout ce qui s'occupait de mathématiques appliquées et a fortiori de techniques était mal vu dans le milieu mathématicien. Et puis une raison essentielle, c'est que la France en 1945, pourquoi est-ce que... C'est pas grave, c'est un beau paysage. C'est bien. Voilà, mais on avait raison de se méfier de l'informatique. Une raison fondamentale et qu'il ne faut jamais perdre de vue quand on fait ces comparaisons, c'est que la France est sortie ruinée et dépeuplé, non pas seulement de la Deuxième Guerre mondiale, mais de la suite, la série de deux guerres mondiales. La France, il ne faut jamais oublier que la France a perdu 1,5 million de tués pendant la Première Guerre mondiale, plus 3 millions de blessés graves, 500 000 morts en 1939-1945, un pays absolument ruiné. Il y avait des tickets de rationnement et des coupures d'électricité jusqu'en 1950. Donc aller dans ces conditions, faire des calculateurs électroniques, alors que la priorité c'est quand même de reconstruire les maisons bombardées, les voies ferrées, que ce soit à Poitiers ou Havre ou à Marseille, il y avait quand même un certain sens des priorités. Et puis il y avait des problèmes locaux qui ont expliqué que des projets de calculateurs électroniques qui ont été lancés n'ont pas abouti. Donc il y a peut-être une conclusion que je peux vous donner, que je constate dans le domaine historique, mais qui peut intéresser de futurs ingénieurs, c'est qu'un échec technique, c'est toujours l'échec du management de la technique. Un échec technique, c'est toujours un échec managérial. J'ai un peu réfléchi à la question, je me suis fait des tableaux d'échecs, je suis un des plus grands collectionneurs d'échecs techniques du monde, et Dieu sait que dans l'histoire de l'informatique française, on en a un bel échantillonnage. Quand on cherche ce que c'est essentiellement qu'un échec technique, on ne trouve jamais une raison proprement technique, parce que ça n'existe pas. On trouve toujours un problème managérial. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi, un chef de projet qui n'a pas réussi à mobiliser toutes les ressources matérielles, financières, cognitives nécessaires pour son projet. Un chef de projet qui n'a pas réussi à trouver, à mobiliser les alliances nécessaires. Alors ça peut être des alliances scientifiques, ça peut être une alliance avec un scientifique qui leur a dit là, ça n'est pas faisable parce que la théorie montre que là, tu te heurtes à quelque chose d'absolument infaisable, d'impossible, une contradiction logique fondamentale. C'est un chef de projet qui n'a pas réussi à s'allier en aval avec un industriel qui aurait pu lui dire, dès le stade amont, dès le stade de la conception même du projet, du cahier des charges, ça c'est une recherche très intéressante, mais ça ne prendra jamais sur le marché parce que ça n'intéresse personne. Alors l'industriel peut se tromper aussi, mais le boulot, le travail d'un chef de projet, c'est vraiment d'essayer de mettre ensemble et de faire fonctionner des alliances, des ressources mobilisées et un calendrier, de tenir autant que se peut ces délais. Tenir les délais, c'est encore plus important que de faire un chef-d'œuvre qui marche très bien. Parce qu'il y a essentiellement avec la tenue de délais qu'on crée de la confiance. Et la création de confiance, là on est au cœur du sujet, la création de confiance, c'est un des ingrédients essentiels d'une réussite de projet, que ce soit un projet de machine ou le projet de développement d'une discipline. Et je boucle avec cette première partie de mon histoire. Le fait que la recherche française n'ait pas réussi à construire des ordinateurs à la période pionnière, à la période où les orientations fondamentales se prenaient, à la période où tout se décidait, notamment en termes d'image, fait que la construction d'ordinateurs, l'informatique avant la lettre, n'a pas été crédible. Donc on est parti, dès le début des années 50, dans un cercle vicieux de l'échec. En n'ayant pas construit d'ordinateurs, on avait une image de médiocre, de gens qui ratent. Les gens qui avaient participé à ces quelques projets au CNRS ou à l'ONERA ou ailleurs sont partis, donc les équipes se disloquaient au lieu de rester des forces capables de relancer le processus. Aucun mathématicien brillant, aucun électronicien brillant, un peu soucieux de sa carrière, n'a voulu ensuite se lancer dans des projets de ce genre. Et en fin de compte, il n'y avait pas d'ordinateur dans les universités, donc aucune expérience n'existait de leur emploi. Donc il n'y avait personne qui connaisse un peu les problèmes de programmation, les problèmes d'analyse numérique. Donc il y avait un vide. Et pour rattraper cet échec, il a fallu redoubler d'efforts, il a fallu un investissement en travail, en persuasion, en acquisition de crédibilité qui a pris très longtemps. Et ça explique ce que j'expose dans la troisième partie de mon livre, c'est la très grande difficulté qu'a eu l'informatique à émerger et à s'imposer comme une discipline légitime dans le milieu universitaire, comme dans les écoles, dans l'ensemble du système d'enseignement supérieur et de recherche. Ma deuxième partie, c'est, je reviendrai tout à l'heure, c'est le développement et la différenciation des pôles régionaux, notamment universitaires. Et la troisième partie, c'est sur la légitimation, l'affirmation d'une science nouvelle à partir d'une technique. Je reviendrai. Les repères chronologiques rapides. C'est vers 1950 qu'on a commencé à moderniser l'enseignement des mathématiques appliquées dans l'enseignement supérieur pour répondre à des besoins techniques. Ce n'est pas par une décision suprême des hautes autorités académiques. Si on a commencé à créer des chaires d'analyse numérique et des enseignements de mathématiques appliquées renouvelés vers 1950, c'est en réponse à une double demande. D'une part, la demande de l'industrie électronique qui avait besoin que de nouvelles matières soient enseignées, qui avait besoin qu'on renouvelle l'enseignement des mathématiques appliquées. Il y a des listes. L'industrie électronique a demandé qu'on enseigne les fonctions de Bessel, le calcul matriciel. Donc c'est des choses qui n'étaient pas enseignées auparavant, même dans les programmes de mathématiques appliquées, de mécanique rationnelle à l'époque. Donc il y a une demande économique, une demande technique, une demande industrielle d'un renouveau des mathématiques appliquées. D'autre part, il y a une explosion de la demande dans ces domaines. D'une part, parce que l'industrie électronique française redémarre avec des programmes de radar, avec des programmes de radio, de télévision, etc. Et d'autre part, parce qu'en 1950, c'est le début de la guerre froide. Donc là, on relit l'histoire des sciences et l'histoire de l'enseignement à l'histoire politique au plus haut niveau, à l'histoire de la stratégie des nations et des blocs. C'est le début de la guerre froide, c'est la suite des coups de force communistes en Europe centrale, c'est le début même de la guerre chaude avec la guerre de Corée en 1950, et sont votés en 1950 des programmes de missiles, d'aviation, de renouveau de la marine aux États-Unis, mais aussi en France, puisque c'est l'époque où on crée l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, dont la France est un membre fondateur. Et très vite, dès le démarrage de ces programmes de construction de systèmes d'armes, on voit les militaires qui demandent aux universitaires de l'expertise en matière de modélisation mathématique et de l'aide en matière de calcul. Pourquoi ? Tout simplement parce que entre expérimenter des avions, c'est-à-dire faire des essais, faire des tests avec les accidents où on perd deux ou trois fois par an un pilote d'essai et le prototype qui va avec, et essayer de remplacer l'expérimentation par le calcul sur une machine, ce qu'on n'appelle pas encore la simulation, comment dire, il n'y a pas photo, on a tendance à préférer le calcul. Mais pour ça, il faut développer de l'expertise en matière de modélisation mathématique et des calculateurs. Donc, apparaît dans la France du début des années 50 une demande de calcul et de modélisation mathématique qui n'existait pas auparavant. Et un premier aboutissement de tout ça, c'est qu'en 1955, sont installés les premiers ordinateurs, installation de machines qui est très vite suivie de la constitution d'un milieu professionnel. Parce que ces machines, il faut les utiliser. Et les gens qui commencent à les programmer, à faire des calculs, à traiter de l'information, viennent d'horizons très différents et ont besoin d'échanger des connaissances, de partager leurs méthodes, d'acquérir, d'améliorer leur savoir-faire dans un domaine où tout était inventé. Donc, dans un domaine où tout était inventé, on a vraiment intérêt à se rassembler, à se réunir, à créer des sociétés savantes et des associations professionnelles pour suivre le progrès technique et pour être un peu plus efficace. Je continue à décrire ce processus d'émergence. À partir de 1960, un certain nombre de gens un peu curieux, un peu inventifs, imaginent qu'on peut utiliser les ordinateurs à faire d'autres choses que du calcul, et par exemple, à faire de la documentation, à faire du tri, à traiter des fichiers, à faire ce qu'on faisait déjà sur des machines mécanographiques, mais en décuplant la puissance avec des ordinateurs électroniques. Et d'autre part, dès la fin des années 50, il y a des projets de traduction automatique. Donc des choses qui n'ont rien à voir avec le calcul, qui rapprochent en fait les calculateurs automatiques de problèmes très différents qui sont ceux de la linguistique. Donc on voit apparaître des gens de milieux assez différents qui s'intéressent à ce qu'on peut faire avec ces nouvelles machines. Et les linguistes découvrent qu'il y a une raison supplémentaire de s'intéresser aux ordinateurs, c'est qu'on commence à en avoir assez de programmer avec des 0 et des 1 en code machine, et que certains informaticiens, certains utilisateurs d'ordinateurs, ont bricolé des langages qui s'appellent Fortran, qui s'appellent COBOL, qui sont très proches encore de la logique de telle ou telle machine, mais qui sont quand même des langages. Et d'une part, les linguistes, des linguistes un peu curieux, un peu aventureux, s'intéressent à ces langages artificiels, on n'a jamais vu ça. Si, il y a eu l'espéranto, mais et surtout, il y a dans le milieu des linguistes des gens qui sont en train de renouveler la linguistique en la mariant avec l'algèbre. C'est l'algèbre la linguistique formelle. Et là, ils ont des raisons très particulières, très intellectuelles, de s'intéresser à des langages artificiels parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On peut inventer des grammaires, on peut inventer des syntaxes, on peut. Si on est mathématicien, comme c'est le cas de certains d'entre eux, on peut considérer un langage comme un objet mathématique. Après tout, un langage, c'est un double ensemble, c'est un ensemble de règles de grammaire et de vocabulaire. Et un vocabulaire lui-même, c'est un alphabet qui peut être arrangé de différentes façons. Donc on peut faire des raisonnements algébriques, et c'est la naissance à la fois de la linguistique. C'est la naissance de la linguistique computationnelle avant la lettre. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on voit converger autour de l'ordinateur, autour de ces problèmes, de comment les employer et aussi de problèmes, comment concevoir les futurs ordinateurs, des gens d'origine très différente. Ça aboutit quelques années après, au milieu des années 60, à des interrogations sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. On est en train de faire ce que je viens de décrire, c'est plus du calcul, c'est plus seulement de l'analyse numérique, c'est plus seulement de la modélisation mathématique, c'est un domaine nouveau. Il se trouve qu'un chef d'entreprise a inventé un mot informatique en 1962, qui tombe à point nommé pour désigner ce domaine nouveau, et commence à apparaître l'idée que ça pourrait être une discipline scientifique nouvelle. Est-ce une technique? Est-ce une discipline scientifique nouvelle? Ce sont des choses qui vont être débattues pendant plusieurs années. Et ce qui va trancher dans cette controverse, ce ne sont pas des arguments intellectuels, c'est le marché. Alors, ça peut vous paraître choquant, mais c'est réellement l'économie. C'est plus exactement, c'est la demande en explosion de programmeurs, d'informaticiens formés par l'enseignement supérieur, qui impose la création non pas d'une science informatique, mais d'enseignement. Il faut former des milliers de programmeurs. L'université n'a été capable que d'en former quelques centaines, et c'était déjà pas mal, parce qu'il n'y avait pas de profs. La moitié des enseignants d'informatique, c'était des ingénieurs de l'industrie qui venaient dans les écoles d'ingénieurs et dans les universités pour enseigner ce domaine nouveau. Et donc, on crée d'abord des licences et des maîtrises d'informatique qui sont des licences et des maîtrises de sciences appliquées. C'était une catégorie qui existait dans les années 60. Et les premiers départements d'informatique, ce n'est pas dans les universités, c'est dans les IUT, c'est dans les instituts universitaires de technologie, créés en 1966 par une réforme du ministère d'Éducation nationale. Et la priorité, le premier soin des premiers IUT créés en France, c'est de se doter de départements d'informatique. Donc, c'est ainsi que naît et que s'officialise une discipline qui est d'abord une discipline plus technique ou technologique que scientifique. À partir de là, commencent à émerger des gens qui font de la théorie, qui formalisent, qui font de l'abstraction et qui réfléchissent à ce que c'est que leur science ou leur discipline, qui commencent à affirmer que c'est une science. Il y a un livre en 1970 intitulé « La science informatique », ce qui est vraiment un manifeste militant. L'informatique est une science. Alors, ce livre déchet, écrit par un des pionniers d'enseignement de l'informatique, qui est titulaire de la chaire de programmation de la Sorbonne depuis 1965, mais c'est le seul en France, et il se heurte à une levée de boucliers, à des cris ahurissants en fin de la part des mathématiciens, qui expliquent que l'informatique est une application technique des mathématiques. Ça, c'est dans les meilleurs cas, chez les plus tolérants. Chez les autres, on trouve des expressions comme l'informatique, c'est une technique auxiliaire de la science qui s'apprend en 3 heures comme le soufflage du verre. Ou certains vont plus loin, l'informatique, c'est la poubelle des mathématiques. Et tout ça est enregistré, connu, ça a été écrit. Bon. Malgré cela, les quelques pionniers militants de la science informatique obtiennent au début des années 70 la création d'instances d'évaluation autonomes au Conseil supérieur des universités et au CNRS. Je ne vais pas vous assommer avec le... Ben si, quand même, c'est intéressant. Le processus de développement, le processus de computarisation, pour ne pas dire d'informatisation. Je reviens un petit peu en arrière. Au départ, dans quelques centres, dans quelques laboratoires, dans quelques entreprises, il y a une demande de calcul scientifique, une demande de traitement, souvent pour des calculs de balistique. L'artillerie est un des premiers demandeurs. Dès la guerre de 14, il y a des grosses demandes de calculs balistiques. Et très vite, pour l'aéronautique. Le problème fondamental de l'aéronautique entre les deux guerres, c'est une course entre la puissance des moteurs et la résistance ou le manque de résistance des structures des avions. Donc c'est l'époque où on passe des biplans aux monoplans. Les moteurs augmentent de puissance tous les ans, et régulièrement on voit des avions d'essai dépassent la vitesse que leur voilure peut supporter, et donc la voilure éclate en 1000 morceaux, et le pilote se retrouve en parachute avec son avion qui tombe en pluie autour de lui. C'est ce que vous connaissez ça mieux que moi, je pense, c'est l'effet de flutter, qu'on peut traduire par le fasseillement des voilures d'avion. Bref, des phénomènes vibratoires qui incitent à essayer de calculer à la fois des profils aérodynamiques et des problèmes de résistance des matériaux et des structures. Donc ça induit du calcul. Et pour ça, des laboratoires, soit dans les entreprises d'aéronautique, soit dans les universités, développent des petits services de calcul pour répondre avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire des moulinettes à calcul, des tables de logarithmes, des tables numériques de toutes sortes, où on met au point ce qu'on appelait des calculateurs analogiques. qui répondent à la demande, et en répondant à la demande, elles la stimulent. Donc les utilisateurs voient qu'on peut faire des choses intéressantes avec le calcul, qu'on peut économiser sur l'expérimentation, donc ils demandent plus de calcul. Donc le service de calcul est obligé de se développer pour répondre. Donc on a un cercle vicieux ou vertueux, selon les points de vue, de l'offre et de la demande de calcul, qui fait qu'à partir d'un certain stade, on ne peut plus acheter des machines du commerce, ça devient ingérable. Donc des scientifiques ou des ingénieurs imaginatifs inventent une grosse machine à calculer en utilisant les technologies de l'époque, des roues dentées, des relais de téléphone, des disques avec des systèmes de frottement, les premiers calculateurs analogiques, ou des cuves rhéoélectriques, où on simule l'équation de Laplace avec des électrodes dans une cuve pleine d'eau salée. Bientôt, ces nouveaux moyens de calcul sont saturés. Et bref, je résume l'histoire. À la fin des années 40, les gens les plus en pointe commencent à construire des calculateurs électroniques en se fondant sur les plus pointus d'entre eux, sur le rapport qu'a écrit un immense mathématicien américain, John von Neumann, qui décrit un calculateur électronique à programme enregistré, ce qui est la définition même de l'ordinateur. Donc le rapport von Neumann date de 1945, une version plus élaborée publiée en 1946, et ce sont les gens qui ont lu ce rapport qui se lance dans la réalisation des tout premiers ordinateurs dans le monde. Donc c'est la machine de Cambridge que j'ai montrée tout à l'heure, c'est la machine que dirige von Neumann lui-même à l'université de Princeton aux États-Unis, c'est en France un petit industriel qui crée son entreprise en 1947 pour faire une machine de ce genre. Bref, vers 1950, une dizaine d'ordinateurs sont en cours de réalisation dans le monde. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'en France... il n'y en avait pas dans l'industrie. Alors, cette histoire, ces rencontres coïncident avec un mouvement beaucoup plus vaste qu'on a appelé la cybernétique, qui est à la fois latérale, parallèle et quand même intéressante pour nous. Parce qu'il y a à une époque assez délimitée, disons entre le milieu des années 40 et le milieu des années 50, des gens de toutes disciplines se sont rencontrés autour d'une ambition intellectuelle. À une époque de très grande spécialisation, avec l'expansion de la science, de plus en plus de spécialisation et donc de cloisonnement, faisait que les gens d'une spécialité comprenaient de moins en moins ce qui se faisait à côté. Un certain nombre de gens... des sciences, des biologistes, des gens des sciences de la vie, des gens de l'électronique, des gens des télécoms, des mathématiciens, ont essayé de voir ce qu'ils pouvaient comprendre les uns des disciplines des autres et voir s'il n'y aurait pas des sources d'inspiration à puiser, par exemple des sciences de la vie, de l'étude des réflexes, par exemple, de l'étude des réflexes animaux ou des mécanismes élémentaires de la pensée dans des questions physiques, des questions mécaniques qui étaient apparues intéressantes et même vitales pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec le développement de ce qu'on appelait les avions robots, avec le calcul de tir, avec la nécessité d'essayer de prédire la trajectoire d'un avion pour que l'artillerie de DCA puisse l'atteindre, etc. Donc c'est cette espèce de nuage, cette espèce de nébuleuse figurer sous forme d'un chaudron, parce que c'est un bouillon de culture, qu'on a appelé la cybernétique. Donc ce que j'essaie de montrer dans ce schéma, c'est comment des gens venus de disciplines très différentes et des idées, ce qu'on peut appeler des agendas intellectuels, ce qu'on a envie de faire, ont convergé, se sont rencontrés dans cette nébuleuse. En général, ensuite, chaque spécialiste est reparti dans son domaine d'origine ou a changé de domaine, mais de façon recomposée, de façon enrichie. et en faisant le tri, en fait. Vers 1900, au milieu des années 50, la plupart de ces gens ont fait le tri entre ce qu'il y avait de sérieux, de stimulant, d'intéressant qu'on pouvait garder de ce passage dans la cybernétique, et en laissant de côté les aspects les plus folkloriques, qui en revanche ont continué à intéresser les journalistes, ce qui fait que la cybernétique a encore perdu à son tour en légitimité pour les scientifiques et les ingénieurs sérieux. Anecdotiquement, voilà le premier ordinateur français, dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler, pour la bonne raison que c'est aussi le premier échec de l'histoire de l'informatique française. Donc ça voulait être l'équivalent de la machine de Cambridge que je vous ai montré tout à l'heure. Simplement, ce qu'on peut dire en gros, c'est que le chef de projet, Louis Coufignal, qui était recruté pour ça au CNRS et mis à la tête d'un laboratoire du CNRS, a vraiment su, avec un très grand talent, réunir absolument tous les atouts possibles pour échouer. Et il l'a fait, voilà. C'est un des cas d'échec les plus purs et parfaits que j'ai rencontrés dans l'histoire. Donc là, on pourrait l'étudier dans les écoles d'ingénieurs ou de management. Et bon, je ne vais pas vous demander de lire ce tableau illisible, c'est simplement la liste des machines, des projets de calculateurs qui ont raté en France dans les années 50 dans la recherche publique. Donc malgré cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait dans les années 50 une croissance des besoins de calcul, avec à l'arrière-plan ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, c'est-à-dire les trois décennies qui vont de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à la crise pétrolière du milieu des années 70, les 30 glorieuses, caractérisées par une forte expansion de l'enseignement, de la recherche et de l'économie. Il faut imaginer que l'enseignement supérieur a vu ses effectifs multipliés par 5 entre 1950 et 1975. C'est d'une explosion de l'enseignement supérieur. On trouve parfois sur Internet, dans les associations d'anciens élèves, des photos de promotion d'ingénieurs dans les années 40-50. J'ai regardé par exemple les promos de l'école de physique et de chimie, qui n'est quand même pas une toute petite école. C'est minuscule, c'est des promos de 25-30 élèves. C'est minuscule. Il y a guère que l'école polytechnique qui dépassait les 100 ou 200 élèves à l'époque. Donc en 20 ou 30 ans, on a une expansion énorme de l'enseignement et de la recherche. Le CNRS passe de 2 ou 3 000 personnes à 20 000 personnes. Quant à l'économie, je vous signale qu'à cette époque, on avait des taux de croissance en France qui allaient de 5 à 8 % par an. Voilà, ça a un peu changé. Et corollaire, un diplômé, un tant soit peu sérieux, trouvait du travail en 24 heures. Typiquement, un ingénieur terminait son service militaire un vendredi et travaillait dans une entreprise en CDI et bien payé le lundi suivant. Et si c'était une femme, il n'avait pas le service militaire. Un des premiers ordinateurs installés en France, IBM 650. C'est une photo qui nous raconte un certain nombre de choses quand on la regarde un petit peu attentivement. D'abord, c'est pour cette machine qu'a été inventé le mot ordinateur. C'est évidemment une photo commerciale prise par IBM France pour faire la pub de sa machine. Comme vous le voyez, c'est pas une machine grosse comme une maison. Faut pas avaler toutes les légendes qu'on raconte sur les premiers ordinateurs. C'est une grosse machine, mais c'est pas monstrueux. C'est une machine où il n'y a pas d'écran. Il y a 2 mois, j'ai organisé une exposition sur l'histoire de l'informatique à Paris, et j'y suis retourné 2 ou 3 fois pour interviewer des gens qui avaient travaillé dans l'informatique dans les années 50. Et un jour, il y a eu une visite d'enfants des écoles accompagnés par leurs profs, et à un moment, un des enfants me demande mais c'est curieux, sur les machines que vous exposez, vous avez oublié les écrans. Je dis, mais non, c'est pas qu'on a oublié les écrans dans le grenier ou dans la réserve du musée, c'est qu'il n'y avait pas d'écran. Les entrées-sorties, c'était la tabulatrice à carte perforée avec son imprimante et puis quelques boutons sur le pupitre de la machine. Il n'y avait pas d'écran. Et ce que je peux ajouter, c'est que les ordinateurs de cette époque étaient construits avec des pièces détachées, on ne disait même pas encore les composants, on disait les pièces détachées, qui venaient de technologies préexistantes. Donc les premiers ordinateurs ont été construits avec des tubes électroniques, des lampes venant de la radio, avec des machines à cartes perforées qui venaient de la mécanographie comptable, avec des rubans perforés de papier de telex qui venaient donc du milieu des télécommunications, et avec des imprimantes qui venaient de la mécanographie, des machines à écrire, des machines à cartes perforées. Et de même, les premiers informaticiens étaient des gens qui venaient d'autres domaines. En France, les premiers informaticiens avant la lettre, c'était des mathématiciens, des astrophysiciens. Il y a 4 ou 5 pionniers de l'informatique française qui sont des astrophysiciens, des linguistes, des gens qui étaient au départ des techniciens, puis qui ont suivi des compléments de formation, qui ont fini par passer une thèse et qui sont devenus professeurs d'informatique. Donc, aussi bien les ordinateurs que les gens qui les utilisaient venaient d'horizons extrêmement différents. Donc, il y a le début de l'informatique, c'est l'histoire d'un brassage et d'un mélange, d'une convergence. Alors, comment sont apparus les premiers pôles dans les universités? Ils sont apparus dans un certain nombre de villes françaises. Et si vous regardez un peu attentivement cette carte, vous apercevrez que ce n'est pas exactement la carte française, la carte de géographie française normale. Il y a des petites différences. Par exemple, Grenoble est beaucoup plus grosse que Marseille. Strasbourg n'existe pas. Alors que, bon, c'est une carte des pôles informatiques universitaires en 1973. Mais c'est valable déjà en 1960. Et donc, quand j'ai trouvé cette carte, je me suis posé une question. Qu'est-ce qui a déterminé cette géographie de l'informatique universitaire en France? Et donc, j'ai commencé à étudier l'histoire de l'informatique dans ces villes. J'ai regardé les archives et j'ai interviewé les gens qui avaient été à l'origine de ces pôles. Quand j'ai commencé mon travail à la fin des années 80, ils étaient pratiquement tous encore vivants. Donc j'ai fait des recueils d'histoires orales. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, à Toulouse, à Grenoble, à Nancy, il y a une convergence il y avait une configuration d'université avec une faculté des sciences et une école d'ingénieurs. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la demande de la technique, c'est la demande des écoles d'ingénieurs et derrière les écoles d'ingénieurs, la demande des industriels, qui a obligé ces quelques facultés des sciences à créer des enseignements de mathématiques appliquées, à créer des chaires d'analyse numérique. À partir de là, les jeunes profs de mathématiques appliquées qui étaient nommés ont développé 3 choses en parallèle. Ils ont développé des centres de calcul, au départ avec des petites machines de bureau, puis des calculateurs analogiques ou numériques, qu'ils achetaient ou qui se faisaient offrir. Ils ont développé de l'enseignement en analyse numérique, puis, pour utiliser les machines, ont développé des méthodes de programmation. Je note qu'en 1957, à Grenoble et à Toulouse, on crée les premiers diplômes qui ne s'appellent pas encore d'informatique. On les appelait ingénieurs mathématiciens, ce qui était bizarre à tout point de vue. Pas facile de faire admettre à la commission des titres d'ingénieur l'idée qu'on puisse être ingénieur sans rien connaître aux boulons, aux pistons, à la chimie des pétroles, etc. Simplement parce qu'on fait entrer des, on conçoit, on écrit des codes et on les fait traiter par une machine logique. Et troisième volet de ces dispositifs locaux, c'est dans des petits laboratoires, dans ces vieilles universités qui étaient encore à l'époque en centre-ville, à partir de l'enseignement, on développe de l'analyse numérique et des méthodes de programmation, généralement sous contrat avec des industriels et avec les militaires. Donc un atout important de ces petits professeurs de mathématiques appliquées qui essayait de développer des disciplines mal vues, des disciplines pas nobles dans l'université, c'est qu'ils obtenaient très vite des contrats de calcul et d'expertise en modélisation mathématique de l'EDF, de l'armée de l'air, de la marine, d'IBM, de Bull, qui leur donnaient des ressources qu'ils n'auraient pas pu avoir si c'était simplement adressé au conseil de leur université ou au ministère de l'Éducation nationale. Donc on a un phénomène, on a un effort, une mobilisation de ressources qui passe par des alliances avec des partenaires hors d'université. Donc il ne faut surtout pas croire cette espèce de légende qui nous raconte que dans l'université française, les professeurs vivent dans une tour d'ivoire, que traditionnellement, il n'y avait pas de rapport entre la recherche et l'industrie. Ce n'est pas vrai. Il y en avait. Mais ces gens ne s'en vantaient pas. C'est tout. Donc, quand des sociologues américains venaient faire des enquêtes sur le système d'enseignement français, en général, ils ne quittaient pas Paris. Ils rencontraient des mathématiciens ou des scientifiques parisiens qui, évidemment, étaient le sommet de la pyramide et qui leur racontaient la science française vue d'eux, vue de la Sorbonne, et qui est effectivement de la science pure. Mais ils ne leur racontaient pas ce qui se passait dans les facultés des sciences à Grenoble, à Toulouse, à Poitiers, où on avait des relations considérables avec le milieu industriel ou avec la défense. Donc, on a cette carte. Alors, je suis désolé, mais Poitiers, c'est tout petit. Poitiers est plus petite que Nancy. Ah, ça va pas loin. Et là, on est en 1973. Qu'est-ce qui s'est passé à Poitiers? Il y a un paradoxe poitevin que je connais très mal. Je vais juste vous dire les grandes lignes et c'est tout ce que je sais. Il y a un paradoxe poitevin parce que Poitiers avait apparemment tout pour être l'un de ces grands pôles pionniers de l'informatique en France. Une grande université avec une grande faculté des sciences, des écoles d'ingénieurs, des laboratoires de sciences appliquées, la mécanique des fluides. Depuis les années 20, Poitiers était l'un des grands pôles de mécanique des fluides pour l'aéronautique. Ça avait besoin de calcul. Comment faisait-on de la mécanique des fluides à l'époque? Essentiellement avec d'énormes souffleries, donc avec de l'expérimentation. Et il y avait un investissement matériel, mais aussi un investissement intellectuel dans l'expérimentation par les souffleries. Et c'est sans doute une des raisons qui font que on s'est contenté des méthodes de calcul classiques en complément de l'expérimentation et des essais en soufflerie. Autre facteur, il y avait des mathématiques appliquées, il y avait de l'algèbre, il y avait de bons mathématiciens, il y avait de très grands algébristes, qu'on trouve par ailleurs dans l'histoire du développement de la science informatique en France un peu plus tard. Des gens comme Dubreuil, on trouve même des gens qui ont été actifs plus tard dans l'informatique en France, à Poitiers, des gens comme Jeanville, comme Marcel-Paul Schützenberger, des gens absolument extraordinaires, d'immenses personnalités, mais qui ne sont pas des entrepreneurs de science. Au fond, je crois que la clé de cette histoire particulière, locale, du non-développement de l'informatique à Poitiers au début, je parle des années 50-60, c'est qu'il a manqué un entrepreneur de science. Les gens auxquels je viens de faire allusion, Jeanville, puis Schützenberger, qui a dû être nommé en 56 à Poitiers, sont des gens absolument géniaux, de grands inspirateurs de recherche, des gens qui ont fait des percées extraordinaires en théorie de l'information, en algèbre, en logique, etc. Mais ce n'est pas des créateurs de laboratoire, ce n'est pas des créateurs d'école. Pour reprendre le mot que j'utilise, ce n'est pas des entrepreneurs des sciences, ce n'est pas des gens qui sont capables de mobiliser des ressources, d'organiser une équipe, de passer des contrats avec l'industrie, avec l'EDF, etc. C'est des gens qui, quand on les embête, quand on les dénigre, ils partent. Et donc, c'est important. Alors, vous savez, en histoire, en sciences sociales, on met l'accent sur les structures, les groupes sociaux, mais au stade de démarrage d'un domaine entièrement nouveau comme l'était l'informatique ou le calcul automatique à l'époque, les individualités comptent énormément. La personnalité du créateur, de l'entrepreneur de science, de l'initiateur, ça joue un rôle fondamental. Et son absence joue un rôle fondamental. On a des phénomènes de basculement, c'est presque des phénomènes mécaniques qui tiennent à un tout petit facteur qui fait basculer le système dans un sens ou dans un autre, soit dans une dynamique cumulative de succès, soit dans l'échec. Et donc, c'est un des processus qui m'a intéressé d'analyser dans cette histoire. Et j'ai pas mal d'exemples de basculement. Alors, à Poitiers, à cette époque héroïque et pionnière, ça n'a jamais basculé dans le sens de la création d'un labo d'informatique. Mais dans d'autres villes, comme par exemple à Lyon ou à Besançon, il y a eu un début de processus. Et puis, ça a rebasculé dans l'échec ou dans le néant au bout de quelques années. Alors que dans des villes comme Grenoble, on a vraiment une force d'expansion extraordinaire. À partir du milieu des années 50, le laboratoire compte plusieurs assistants, donc a une possibilité de former de nouveaux diplômés, en même temps de passer des contrats avec les industriels et les administrations publiques, contrats qui permettent de financer des thésards. Finançant des thèses, ils obtiennent des docteurs qui peuvent à leur tour devenir des enseignants. Et donc, on a une expansion d'un centre qui acquiert un tel prestige et une telle surface nationale et internationale qu'il attire des étudiants. Donc, il faut répondre à la demande. Donc, un centre comme celui de Grenoble, mais c'est valable aussi pour Toulouse ou Nancy, garde ses enseignants et connaît une croissance interne. Et ça pendant une vingtaine d'années jusque vers 1970. Bon, je ne vais pas vous parler des sociétés savantes. Je parle maintenant, je ne sais pas combien de temps il me reste, pas beaucoup. Bon, d'accord. Comment tout cela devient une discipline et comment tout cela commence à être reconnu ou discuté comme une science autonome. Hein, en 1960, ce dont nous parlons est classé soit dans la catégorie technique, il s'agit de machines et d'emplois de machines, comme on emploie un accélérateur de particules ou un n'importe quel grand équipement scientifique, soit il s'agit sur le plan scientifique, au niveau scientifique, il s'agit de mathématiques et d'applications des mathématiques, ou de mathématiques appliquées. Et vous savez sans doute que le terme même de mathématiques appliquées est très discuté, très controversé chez les mathématiciens. À l'époque, les mathématiciens purs, je pense à Jean Dieudonné, à Henri Cartan et à d'autres qui étaient les maîtres de la discipline mathématique française, des grandes figures du groupe Bourbaki, expliquaient très rationnellement qu'il n'y a pas de mathématiques appliquées. Il y a les mathématiques qui s'occupent d'objets mathématiques, les fonctions, les groupes. Et puis, il y a les applications des mathématiques qui s'occupent d'objets physiques, de masse, de tension, de charge, etc., de champ. Donc, les mathématiques peuvent servir à modéliser ces phénomènes et ces objets, mais il n'y a pas de mathématiques appliquées. Il y a les mathématiques et les applications des mathématiques. Là-dedans, où caser l'informatique ? Nulle part. Donc, ce que nous appelons l'informatique, tous ces domaines, la traduction automatique, la documentation automatique, les langages, relevaient en général des commissions de mécanique et de mathématiques appliquées au CNRS comme à l'université. Ce qui se passe tout de même, c'est qu'à partir de la traduction automatique, on s'aperçoit que on s'aperçoit qu'on rate. On a lancé au milieu des années 50 de grandes opérations de traduction automatique où on espérait pouvoir traduire couramment, en masse, des livres russes en français ou en anglais par ordinateur, simplement en collant dans l'ordinateur des dictionnaires et quelques règles de grammaire élémentaires. On s'aperçoit que ça ne marche pas. On s'aperçoit que, au lieu de traduire une phrase latine par l'esprit est fort mais la chair est faible, l'ordinateur traduit l'alcool est fort mais la viande est avariée. Ça, c'est un grand classique de la traduction automatique. Et donc, il faut faire des recherches en amont. La traduction automatique, ce n'est pas juste de l'ingénierie linguistique. Il faut faire des recherches en amont pour savoir comment fonctionne vraiment une langue. Donc, ça attire des linguistes, et ça attire des algébristes, et ça attire des gens qui formalisent. Même phénomène pour les entreprises de documentation automatique, qui sont menées à la fois par les militaires, qui ont besoin de gérer des nomenclatures de stocks de pièces détachées gigantesques, qui sont menées par des archéologues, qui ont besoin de classer leurs tessons de poterie, leurs os, leurs esquisses de toutes sortes, et les scientifiques, tout simplement. Les grands centres de documentation, comme celui du CNRS, ont besoin de rationaliser et d'automatiser leur documentation. Et on s'aperçoit que traiter des fichiers, modéliser ce qui s'appellera 10 ans plus tard des systèmes de gestion de bases de données, c'est très compliqué. Ça demande de la modélisation. Ça peut faire appel à des notions de logique mathématique, qui est un domaine totalement sous-développé à l'époque en France. Et donc, là où on espérait arriver en quelques années de travail technique à des systèmes qui marchent, les gens sont obligés de monter jusqu'à un niveau théorique, de faire vraiment de la recherche. Même chose pour les langages de programmation. On est passé en quelques années de codes, de systèmes de codage calqués, qui extrêmement dépendants de l'architecture et de la technologie des ordinateurs, à l'idée que ce serait bien d'élaborer des langages in abstracto, de façon rigoureuse, essentiellement pour éviter les erreurs de programmation, pour assurer une syntaxe rigoureuse, pour assurer une meilleure qualité, une meilleure fiabilité des programmes. Et donc, ce sont des mathématiciens qui se sont réunis à la fin des années 50 pour élaborer in abstracto un langage algorithmique. Algorithmic language, c'est la création d'Algol entre 1958 et 1960. Et en définissant ce langage, ces mathématiciens ont défini du même coup un véritable projet de recherche, parce qu'ensuite il a fallu essayer de faire marcher ce langage conçu de façon abstraite sur les ordinateurs bien concrets qui existaient à l'époque. Et donc c'est le point de départ de toute une entreprise collective de développement de compilateurs. Alors, vous n'êtes pas informaticien, mais vous savez sans doute qu'un compilateur, c'est un logiciel assez complexe qui traduit un langage de haut niveau en code machine, en langage binaire, dans l'ordinateur. Or, on ne savait même pas en 1960 s'il serait possible de compiler Algol. Donc, c'est vraiment un travail de recherche expérimentale, d'ingénierie de haut niveau. Et en faisant ces travaux de compilation, qui ont donné les premières thèses, les premiers sujets de thèse en informatique, on s'est aperçu que, pour faire ça, c'était très utile, pour mener à bien ces travaux, c'était très utile de comprendre ce que disaient les linguistes, les gens de la linguistique formelle, comme Chomsky, comme Schutzenberger. Il y avait de l'algèbre, des notions, des concepts algébriques qui pouvaient être bien intéressants. Donc, en travaillant sur ces langages de programmation, on faisait tout autre chose que de l'analyse numérique, ce qui était considéré jusque-là comme l'interface entre le sous-ensemble commun entre les mathématiques et les machines à calculer. On partait dans tous les sens, dans tous les domaines des mathématiques et bien au-delà des mathématiques. D'où mon expression du langage scientifique à la science informatique. Et puis, un exemple de personnage, j'y ai fait allusion tout à l'heure parce qu'il a été brièvement turbo-professeur à Poitiers, Marcel Paul Schutzenberger, c'est un de ces personnages météoritiques qui traverse l'enfance d'une science et qui la marque. Schutzenberger est aujourd'hui considéré comme un des savants fondateurs de l'informatique théorique sur le plan mondial. Je l'ai connu, je l'ai interviewé, c'était pas commode, à mon avis il était complètement parano, où il faisait semblant, parce qu'il est encore plus pervers que ça. C'est un personnage qui était communiste, il a été résistant à la fin de la guerre, mais je lui ai demandé ce qu'il avait fait dans la résistance, il m'a dit « moi j'étais très prudent, je faisais des faux papiers ». Pas d'armes, pas de trucs comme ça, des faux papiers, et c'est pas moi qui les apportais en main propre. Il est devenu médecin après la guerre. Il a fait des études de médecine, ce qui l'a amené à travailler à l'Organisation mondiale de la santé. À l'Organisation mondiale de la santé, on ne l'a pas employé comme médecin, on l'a employé à faire des statistiques épidémiologiques. En faisant des statistiques épidémiologiques, il s'est aperçu que les statistiques étaient beaucoup plus intéressantes que les épidémies, et au fond, il s'est un peu interrogé sur sa vocation, il s'est aperçu qu'il était mathématicien par nature et par destination. Il a donc fait une thèse sur un des sujets les plus neufs de l'époque, qui était la théorie de l'information, théorie née de la pratique et de la volonté de formaliser la pratique dans les télécommunications. Là-dessus, Schützenberger s'est passionné pour un certain nombre de notions algébriques et pour la théorie des automates. Donc, un de ses tout premiers articles dans le séminaire de Dubreuil, dont la femme était prof ici, c'est sur la théorie des automates. Ce qui l'a amené au MIT et à Stanford ou à Princeton, je ne sais plus, a rencontré Chomsky, a rencontré Shannon, a rencontré des gens qui étaient... qui font partie de la légende ou de l'histoire, de la grande histoire de l'informatique. En 1963, il est élu à la Sorbonne, où il crée un petit groupe de passionnés, un petit groupe de fidèles, même, je dirais, un petit groupe de disciples. C'est vraiment un prophète. Et quand on interviewe les gens aujourd'hui encore, c'est... soit c'était un dieu vivant, soit c'était un type épouvantable. Enfin, c'est un personnage. Quand je l'ai interviewé, c'est tout juste s'il m'a pas demandé si je venais pas du KGB ou de la CIA. Enfin, c'est étonnant. Mais un personnage absolument génial. Pour parfaire le portrait du bonhomme, et c'est pas seulement une histoire de pittoresque, Schützenberger avait des haines intellectuelles. Alors, il avait participé au tout premier séminaire où a été lancé le projet d'intelligence artificielle au MIT, je crois, en 1956 ou 1957. Et dès sa sortie, après 2 heures de séminaire sur Artificial Intelligence, il a décidé que c'était quelque chose de grotesque, une impossibilité logique, un oxymore absolu, et que chaque fois qu'on lui parlerait d'intelligence artificielle, il monterait sur ses grands chevaux de bataille, ce qu'il a fait. Et il y a des rapports entiers pour démolir l'intelligence artificielle pilotée par Schützenberger ou par ses disciples auxquels il faisait écrire ses rapports dans les années 70. Je ne me prononcerai pas sur le fond, mais il avait de très bons arguments. Il avait une autre phobie intellectuelle, c'était Darwin. Il ne pouvait pas supporter les théories darwinistes, dont il estimait qu'elles étaient absolument au mieux tautologiques, au pire oxymoresques ou oxymoronesques. Et un jour, le tout Paris scientifique ou le tout francophonie scientifique a reçu des invitations pour un grand colloque sur la théorie de l'évolution et le darwinisme. Et ils sont arrivés dans un amphithéâtre de l'École normale supérieure où ils ont trouvé... Marcel-Paul Schützenberger à la tribune, qui a pris la parole à 9h du matin pour introduire le colloque, et puis à 5h de l'après-midi, il était toujours là, seul à la tribune, pour faire un colloque, à lui, tout seul, contre le darwinisme. Voilà. Un personnage. Un processus qui me paraît intéressant, un exemple de processus qui me paraît intéressant, processus de pensée, qui est typique de la constitution de cette science informatique dont je suis en train de vous parler. Les gens qui se sont intéressés à la traduction automatique se sont aperçus qu'il y avait, au fond, une équivalence entre le processus de traduction, qu'il soit automatique ou manuel, cérébral, et le processus de compilation. D'ailleurs, souvent, on ne disait pas un compilateur, on disait un traducteur, vers 1960. Et donc, ça, c'est tiré d'un livre d'un des fondateurs de l'informatique et de la branche linguistique de l'informatique, René Moreau, qui était aussi un des directeurs d'IBM France, qui a fondé un laboratoire de recherche à IBM France. René Moreau a écrit une introduction à la linguistique en 1973, d'où je tire cette figure, où il montre le passage d'un texte source un texte cible dans la traduction, ou le passage d'un programme en langage évolué à un programme exécutable par un ordinateur. Peu importe le fond de cette affaire, moi, ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est l'équivalence qui est établie entre deux phénomènes, qui est un processus classique en sciences, notamment en mathématiques, et c'est ce genre d'équivalence qui fonde cette science nouvelle, l'informatique. Fondation d'une science nouvelle qui est manifestée, par exemple, dans ce manuel du langage Algol, qui est sous-titré « Théorie et pratique ». Ça me paraît intéressant parce que une année avant, l'équipe d'informaticiens grenobloises avait publié un manuel qui s'appelait « Algol, manuel pratique ». Et là, c'est l'équipe parisienne qui réplique en écrivant « Théorie et pratique » pour bien affirmer l'existence d'une théorie des langages de programmation. Ça, c'est une synthèse d'un énorme travail que j'ai mené, très fastidieux, que j'ai mené depuis 2 ans, qui consiste à compiler à la main toutes les thèses d'informatique soutenues entre 1955 et 1973. Donc, vous voyez la progression d'une discipline. C'est pas seulement l'informatique, parce qu'il n'y en avait pas au début de la période, mais c'est toutes les thèses de calcul, puis d'informatique. Soutien de l'État. Tournant important de la deuxième moitié des années 60, où on voit l'interaction entre le besoin d'affirmation d'une science dont je viens de parler et les préoccupations politiques qui sont le plan calcul, qui est une réaction à la perte d'autonomie de l'industrie française des ordinateurs face aux Américains, donc ce qu'on appelait le défi américain. Réaction gouvernementale française sous forme d'un plan calcul qui a consisté de façon très visible à créer une entreprise qu'on appelait un champion national pour regagner un minimum d'autonomie technique en France, pour faire des ordinateurs français et constituer une base d'une future industrie européenne des ordinateurs, mais plan calcul dont un volet moins visible consistait à développer systématiquement l'enseignement et la recherche en informatique partout en France. Et c'est à partir du plan calcul que des villes qui n'étaient pas les pionnières qu'on a vues sur la carte tout à l'heure ont reçu des crédits pour créer des postes de maîtres de conférences et bientôt de professeurs et si possible des laboratoires d'informatique. Réforme Fouché, c'est un complément. Fouché était le ministre de l'Éducation nationale en 1966-67. Il a fait une réforme extrêmement importante allant dans le sens de l'introduction de plus d'enseignements techniques et technologiques dans les universités. C'est notamment à lui qu'on doit la création des instituts universitaires de technologie et des maîtrises de sciences appliquées, maîtrise d'électronique, maîtrise d'informatique. C'est la réforme Fouché. C'était pas évident à l'époque d'introduire des enseignements technologiques dans les universités. Si on songe, par exemple, un des grands physiciens français de l'époque a dit au directeur du CNRS, on ne va quand même pas créer des maîtrises d'ébénisterie ou d'informatique. Et autre souci également politique, souci de politique de la recherche et de bonne gestion de la science, le CNRS créer une nouvelle formule qui lui permet d'associer des laboratoires universitaires. C'est l'origine de ce que sont aujourd'hui les UMR, les unités mixtes de recherche, qui sont des unités co-gérées par les universités et le CNRS. Donc on a des processus, tout un processus de décloisonnement à cette époque. On est dans l'expansion de la science à l'époque de Gaulle et de son ministre Christian Fouché, décloisonnement, introduction des enseignements technologiques dans les universités, association entre des laboratoires universitaires et le CNRS, création enfin dans le cadre du plan calcul de nouveaux enseignements et d'un nouvel institut, l'IRIA, qui s'appelle aujourd'hui l'IDRIA, Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, qui montre bien aussi la volonté d'associer deux disciplines en émergence, l'informatique et l'automatique, qui viennent souvent d'horizons différents. Fin des années 60, donc officialisation au CNRS et à l'université, et réponse à une crise à la fin des années 60. À la fin des années 60, on commence à avoir des systèmes temps réel et des ordinateurs en réseau. Et là où on pouvait admettre auparavant que des logiciels soient pas très fiables et se plantent, à partir du moment où des logiciels gèrent des centrales nucléaires, pilotent des missiles et tout simplement gèrent des systèmes complexes d'ordinateurs en réseau, c'est la première convergence entre l'informatique et les télécoms, on ne peut plus se contenter de logiciels bricolés. On doit aller plus loin encore que ce que proposait le projet Algol, le langage de programmation fiable. On veut des systèmes d'exploitation fiables. Et face à la crise du software qui apparaît à l'époque, qui est l'objet d'un certain nombre de colloques, de congrès internationaux à l'époque, on commence à développer d'une part des méthodologies de programmation, programmation structurée, etc. Tout ça naît à l'époque en réaction contre cette crise du software. Et on développe une informatique théorique motivée entre autres ou justifiée par la recherche de systèmes de validité, de validation de programmes, toujours dans l'idée d'essayer de garantir la fiabilité du logiciel, l'infaillibilité même du logiciel, partant d'un constat évident que formule ainsi un mathématicien hollandais qui était un des pionniers de la programmation. On peut faire tous les tests sur machine qu'on veut, on peut faire tourner autant de fois un logiciel qu'on veut, on n'arrivera jamais à prouver qu'il n'a pas de bug, on arrivera seulement à prouver qu'il a des bugs. Donc il faut trouver des méthodes formelles. Bon, voilà. Donc tout cela fait que dans ce livre « La science informatique », l'auteur Jacques Arsac, donc pionnier militant de la programmation et de l'informatique, explique que, on est en 1970, l'informatique est une science en construction qui a différents pans plus ou moins élaborés, plus ou moins formalisés. Ce qui est très mathématique est assez bien formalisé, c'est une science. La programmation, le développement de systèmes d'exploitation, c'est même pas encore d'ingénierie, c'est pas une science. Donc on a un corpus d'une science en formation. Ce qui je trouve intéressant, c'est que déjà 14 ans avant, von Neumann disait la même chose. En 1956, dans un article sur les automates, il disait « Nous sommes dans une science en construction, on aimerait bien avoir une théorie de ces automates que sont les grands ordinateurs. » Et là, je viens de lire le journal du CNRS de ce mois-ci, qui continue à décrire l'informatique comme une science en formation. Alors tout de même, ce qui permet aux informaticiens d'avoir l'audace d'imposer leur discipline comme une science, c'est qu'au milieu des années 70, on a en France quelques réussites qui redonnent la crédibilité que le calcul électronique n'avait pas acquise dans les années 50. C'est les très grandes réussites du centre scientifique qui a été créé conjointement par IBM France et par l'Institut de mathématiques appliquées de Grenoble, d'où sont sortis des systèmes très importants comme les mémoires virtuelles et d'autres. En 1974 est démontré le premier réseau d'ordinateurs, le premier réseau connectant des ordinateurs hétérogènes, des IBM, des C2I, des Bull, réseau qui s'appelle Cyclade, qui est l'un des ancêtres d'Internet. Cyclade est une copie française de l'ARPANET américain, mais une copie qui a ajouté des innovations. C'est une remarquable réussite, très, très probante, de façon moins visible, plus discrète, il y a l'affirmation d'une informatique théorique. Il y a d'autres choses qui sont de grandes avancées, comme par exemple un ingénieur de l'armement devenu professeur d'université, Jean-Raymond Abrial, qui développe un des tout premiers systèmes de base de données relationnelles, le système Socrate, qui est commercialisé par le plan calcul. C'est un exemple parmi d'autres de vraies réussites conceptuelles dans le domaine de l'informatique, mais qui donne en même temps des résultats applicables. Et c'est un ingénieur informaticien formé à Grenoble et installé à Montréal puis à Marseille, qui a été formé avec le langage Algol et qui développe non seulement un nouveau langage de programmation, Prolog, mais même une nouvelle algorithmique, donc une toute nouvelle approche de la programmation. Et on a, bon, par exemple, le premier réseau d'ordinateurs français, le réseau Cyclade, qui commence en 1975 à interconnecter des ordinateurs à travers la France et jusqu'en Angleterre et en Belgique. Voilà. Voilà. Un petit schéma tout simple des rencontres, des brassages et des convergences que je me suis efforcé de vous présenter. Merci. Ah, et ça, c'est une caricature que j'ai trouvée dans la Gazette des mathématiciens qui montre à quel point les mathématiciens devaient se repentir au milieu des années 70 de ne pas avoir vu l'importance de l'informatique émergente. Voilà. Si vous avez des questions.
Pour revenir sur des échecs personnels, des hommes qui ont fait ça et des hommes émergés.
Ah oui, mais enfin, qui est-ce qui nomme les hommes? Koufignal, bon, pour prendre cet exemple, Koufignal a quand même été choisi par le CNRS. Et pendant des années, on l'a laissé s'enferrer, le brave homme, dans un projet de machine qui ne ressemblait à rien, c'était une espèce de machine parallèle à programme externe, parce qu'en plus le bonhomme était arrogant, Koufignal estimait que von Neumann se trompait, n'allait pas dans le sens de l'histoire, et que Koufignal avait toute une théorie sur une loi de l'évolution naturelle des machines à calculer qui allait du plus simple, le boulier, au plus complexe, la machine de Koufignal. Ça, ça a été complexe. C'est sûr, ça l'est toujours. Mais bon, pourquoi personne n'a... Il y avait quand même un comité de direction. Pourquoi est-ce que les évaluations ont toujours été complaisantes? Pourquoi on l'a laissé faire? Pourquoi dans une évaluation, il faut nommer un caractériel. Dans un comité, il faut toujours qu'il y ait une certaine diversité humaine. Il faut des gens bienveillants, il faut un ou deux caractériels hypercritiques, il faut quelques grandes gueules, il faut des gens discrets mais très attentifs qui regardent les détails, parce que le diable est dans les détails. C'est tout un art, l'évaluation. Et là, visiblement, on a donné dans la complaisance pure et simple, un peu pour des raisons politiques. Alors, il faut savoir qu'à la fin des années 40, le CNRS, et en général la recherche française, était très contrôlée politiquement, hein, si on n'était pas proche du Parti communiste, c'était pas évident de s'en tirer. Ce qui fait d'ailleurs que l'un des rares Français qui était vraiment compétent dans ce domaine, Léon Brillouin, un des pères de la théorie de l'information, est parti pour les États-Unis parce qu'il était en butte aux savants officiels du Parti communiste, notamment au directeur général du CNRS. Les individus, les structures doivent être considérés de façon complémentaire. Les fondateurs de l'informatique à Grenoble étaient des personnalités, mais c'était des personnalités d'abord qui étaient en binôme ou en trinôme, mais bientôt en quadripôle. Il y avait quatre personnes. Donc on a un héros en quatre personnes, ou un fondateur en quatre personnes, qui avait la chance de s'entendre très bien, ce qui n'est pas toujours évident entre universitaires, qui étaient très complémentaires, et qui tous savaient faire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire mobiliser des ressources, nouer des alliances, toute une diplomatie, c'est le travail d'un entrepreneur, coordonner des moyens et les accroître. J'ai deux réponses à ça. La première, c'est jeté à la poubelle Vista et les systèmes Microsoft et passé au logiciel genre Linux, déjà. Et deuxièmement, les systèmes sont en permanence saturés. Avec la loi de Moore et l'évolution, le progrès des technologies, tous les 18 mois, on double à peu près de capacité, mais les usages ne cessent de remplir cet espace sans cesse en expansion. Et au fond, c'est la suite très lointaine du processus de computerisation que je vous montrais tout à l'heure. C'est-à-dire, on est dans la réponse à la demande de calcul ou de traitement de l'information, machine ou système plus puissant avec une plus grande capacité, que très vite la demande sature à nouveau. C'est ce qu'on en faisait la remarque tout à l'heure où j'étais sur un... On faisait un webinaire à l'espace Mendès France. Et donc, je faisais une conférence un peu semblable à celle-ci, mais devant une webcam, devant un ordinateur, et tout ça, c'était sur Internet. Donc, avec tous ces objets nouveaux, multimédia, qui sont connectés, on sature l'Internet. L'Internet n'a pas été conçu pour ça. L'Internet a été conçu dans les années 70-80 pour une informatique avec des contenus beaucoup moins riches, beaucoup moins denses. Pas d'images, pas de son, juste du texte, quelques données. C'était fait pour manier des masses de données, mais sous forme de code ASCII, sous forme de caractères comme ça. Je ne peux pas vous dire quel sera l'avenir, je peux vous dire ce qu'on prépare dans les labos. Il y a des programmes de recherche en Europe et aux États-Unis, notamment, et sans doute ailleurs, pour reconcevoir l'Internet afin qu'il soit capable vraiment de supporter toutes ces masses d'informations nouvelles et tous les objets communicants. Intercommunicants qui véhiculent, transfèrent, reçoivent et émettent ces informations. Voilà, c'est un élément de réponse que je peux vous donner, mais pour l'informatique de demain, moi, je suis moins savant que vous. J'ai un ordinateur, j'ai envie de taper dessus de temps en temps, j'évite d'avoir des systèmes Microsoft, mais... Monsieur Tout-le-Monde, il veut en faire le moins possible, en avoir le plus possible, oui. Et l'idéal, ce serait que l'ordinateur réponde à des questions formulées par une voix pâteuse le soir en rentrant du bistrot. Mais il y a deux problèmes à ça. Le premier, c'est que les machines ont des limites physiques, même si on n'arrête pas de les saturer. C'est assez différent de la voiture. Les voitures ne sont pas saturées par une demande permanente de vitesse. Autrement, on aurait des véhicules qui iraient à 1000 ou 2000 km/h. Or, on en est toujours à des vitesses comparables à ce qu'on avait dans les années 1940 avec nos voitures actuelles. L'autre problème, c'est au fond le problème de l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui croient à la possibilité de l'intelligence artificielle, vraiment, le web sémantique, mais vraiment au sens propre, complet du terme, mais c'est un peu comme les gens qui croyaient à la possibilité d'une vraie traduction automatique en 1956. Et puis, vous avez des gens qui objectent à cela, des gens comme Jacques Arsac, l'auteur de La science informatique, ou Schützenberger, qui objectent que un ordinateur, c'est une machine logique, c'est-à-dire une machine bête. C'est une machine qui n'a pas accès à la subjectivité, c'est une machine qui n'a pas vraiment accès au sens, à la sémantique. On peut lui faire simuler des comportements et des compréhensions, mais c'est seulement de la simulation mécanique. Au fond, il n'y a pas plus d'intelligence dans un ordinateur que dans une machine à trier les petits pois. Simplement, elle est beaucoup plus complexe et elle peut faire semblant de... Donc là, toute la controverse porte sur le fameux test d'ELISA. Le test d'ELISA qui a été mis au point par Alan Turing, qui lui croyait à l'existence d'une intelligence artificielle, qui disait, si vous avez dans une pièce quelqu'un qui parle sur un clavier ou dans un micro, puis dans une autre pièce, une machine qui lui répond et qui lui fournit des réponses à peu près cohérentes ou qui répond par des questions à ce qu'il dit, il ne pourra pas savoir si c'est une machine ou un être humain. Et donc, c'est la preuve qu'il y a une intelligence artificielle. Ce à quoi quelqu'un de très fin a répondu que moi, je peux faire du traitement de l'information en chinois, alors que je ne connais absolument pas le chinois, mais en intégrant quelques règles de lecture d'idéogramme, quelques règles de grammaire, je peux arriver à faire des phrases en chinois. Je ne comprendrai pas ce que je dis, mais je ferai des phrases correctes. J'ai fait l'expérience pas avec le chinois, mais avec d'autres langues. Effectivement, j'arrive à faire des bouts de trucs. Donc, je peux faire du traitement de l'information absolument bête. Là, ce n'est pas un ordinateur qui imite un homme, c'est un cerveau humain qui fait du traitement de l'information basique comme un ordinateur. Et donc, le test d'ELISA ne prouve pas la possibilité de l'intelligence artificielle. Mais pour ça, je vous renvoie à d'excellents livres. Frank Varen, il y a beaucoup de les livres de Jacques Arsac, Les machines à penser, qui démontrent essentiellement que les machines ne pensent pas. Voilà. Mais ça, c'est une immense controverse passionnante qui est au-delà de mon exposé.